Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions qui monte, celui dont on parle de plus en plus en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, partout. Le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on parle d'un sujet qui est important et qui, je le sais, intéresse de plus en plus nos adolescents. Mon ado est transgenre, et oui. Peut-être que si on est de la génération d'avant, c'est un sujet dont on parlait pas. Pas du tout. Bah, en tout cas, c'est pas du tout et c'est plus du tout le cas aujourd'hui avec la génération de nos ados. Donc, je vous conseille fortement d'écouter ce témoignage de Zach. Et puis, nous serons avec un expert qu'on aime beaucoup, c'est Serge Effez, qui nous donnera des bons conseils si vous êtes vous-même ou dans votre entourage concerné par ce sujet. C'est parti, on écoute Zach avec Agathe Le Caron.
Être née fille et se sentir profondément un garçon ou bien être née garçon dans le corps d'une fille, c'est la définition même des personnes dites transgenres. Bonjour Zach.
Bonjour.
Alors Zach, c'est votre cas. Vous avez 19 ans, vous êtes un jeune homme transgenre, mais à la naissance, vous étiez de sexe féminin. Donc vous allez nous raconter aujourd'hui votre parcours, votre enfance, l'annonce à votre maman, les nombreux traitements mis en œuvre pour réaliser votre transition. Merci, parce que c'est important pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'est la transidentité, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous et puis surtout de méconnaissances sur ce sujet. Donc vous êtes née fille, Zach. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous n'étiez pas née dans le bon corps, si je peux dire comme ça?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, quand j'étais petit, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour moi, j'étais un garçon, mais je ne connaissais pas la transidentité. Donc, je ne savais pas mettre des mots sur mon mal-être. Donc, je vivais ma vie en tant que petit garçon, tout en ne comprenant pas pourquoi les gens me disaient que je n'étais pas un garçon. Ma mère, dès mes 4 ans, a accepté de me laisser libre cours à comment je voulais m'habiller. Donc, avec des habits dits de petits garçons, j'étais inscrit dans un club de foot. J'étais le garçon manqué. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi on me différenciait des autres petits garçons.
Oui, c'est ça. Donc, dans votre tête, vous étiez exactement comme les garçons que vous côtoyez à l'époque. Alors, l'adolescence, après ça, on sait que c'est une période compliquée, de toute façon, en général, pour l'acceptation de son corps. Comment ça s'est passé pour vous dans ce contexte-là, dans ce mal-être-là?
Alors, c'est vrai que l'adolescence, la préadolescence, a été une période vraiment très compliquée parce que, déjà, pour toute personne, le corps change, mais alors encore plus quand on est transgenre et qu'on n'a pas le bon corps, on le déteste, notre corps, alors on le voit changer et de la pire des façons possibles, quoi, dans le sens inverse où on veut.
Oui, c'est vrai, tout à coup, il y a les seins qui poussent, etc., alors vous voudriez justement que ce soit l'inverse, quoi.
Et c'est l'inverse, et du coup, ben, ça entraîne du mal-être, et tout en on ne comprend pas pourquoi. Donc moi, été comme hiver, j'avais plein de couches de vêtements, des pulls, des vestes, mais sur l'instant T, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'on n'est pas bien, et on ne comprend pas, c'est l'incompréhension, parce qu'on se dit, ben, c'est pas possible, en fait, c'est...
Vous n'êtes pas dit, tiens, je voudrais être un garçon. Vous ne vous disiez pas cette phrase à l'époque. Juste, vous étiez mal, quoi.
C'est ça. Moi, dans ma tête, j'étais un garçon, mais aussi dans ma tête, je me disais, ben non, c'est pas possible. J'ai ce corps, alors je suis pas un garçon. Je comprenais pas ce qui clochait en moi. Et c'est ça qui me rendait mal.
Alors, à quel moment est-ce que vous avez compris? À quel moment vous avez posé un mot, vous êtes dit, tiens, en fait, je suis transgenre?
C'est lorsque je suis tombée. J'étais en troisième, j'avais 15 ans. Et par hasard, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'un Américain que je suivais depuis un petit bout de temps. Et là, il répondait à des questions et il disait qu'il était transgenre. Alors moi, au début, je n'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était. Et c'est au fur et à mesure où il expliquait la chose où je me suis dit, mais c'est possible. Mais c'est bizarre parce que c'est exactement moi. Et je me suis renseigné sur la question. Et là, ça a été un soulagement parce que je me disais que je n'étais pas seul. Je comprenais ce que j'avais. Mais à la fois, ça a été un petit effondrement parce que j'ai vu, en se renseignant, j'ai vu la montagne qui allait apparaître devant moi, les démarches, etc.
Oui, vous êtes déjà tout de suite renseigné, vous êtes dit, mais j'en ai pour des années de médecin, etc.
C'est ça. Et au tout début, ben, quand on a 15 ans, quand on découvre ça tout seul, ça nous fait peur, on prend peur et on se dit, ben, waouh. Qu'est-ce qui va m'attendre?
Donc, quel chemin, quoi.
C'est ça. Je suis rentrée dans une... Donc, suite à ce bouleversement d'avoir enfin compris qui j'étais, mais de voir toutes les étapes qui allaient m'attendre, je suis passé par une petite période de déni qui n'a duré même pas 2 mois. Mais pendant 2 mois, je me suis dit, bon, tant pis, c'est trop compliqué. Tant pis, quoi. Je ne vais pas commencer à faire toutes ces démarches. C'est trop pour moi.
Ça fait peur, en plus.
C'est ça, ça fait peur. Ouais. Mais après, au bout de même pas 1 mois, je me suis dit, mais non, en fait, quand je vois les autres personnes transgenres qui sont heureuses après leur transition, que moi, je suis très mal, que c'est invivable, vraiment, c'était invivable, parce qu'à 15 ans, on est en pleine crise d'adolescence, mon corps est changé, c'était vraiment horrible. Et je me suis dit, ben non, moi, je suis un garçon, il faut que je vive en tant que tel, sinon, ben, je ne pourrais pas vivre, en fait.
Ça. Alors, comment ont réagi vos copains? Parce qu'on sait qu'au collège, ce n'est pas forcément facile. Vous avez pu leur en parler ou pas?
J'en ai parlé tout de suite parce que j'ai eu de la chance. En troisième, j'étais dans un petit collège de campagne. On n'était vraiment pas beaucoup. On était dans un internat. Donc j'en ai... En fait, le début de ma transition sociale s'est fait en fait avec mes amis. Je leur en ai tout de suite parlé. Vu qu'en fait, je m'habillais en tant que garçon, c'était... Moi, je suis passé pas de fille à garçon. Je suis passé de... Ben, quelqu'un qui s'habille en garçon, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, en fait, je leur en ai parlé tout de suite. J'aurais dit, ben, regardez, il y a cette personne sur les réseaux sociaux. Elle est transgenre. Je leur ai expliqué ce que c'était. Et ils m'ont dit, ben oui, c'est toi, en fait. Donc,
oui, c'est ça.
J'ai fait mon petit bout de chemin avec eux, en fait.
Et alors, la première adulte à qui vous en avez parlé, c'est votre prof d'histoire géo.
C'est
pourquoi
ça.
Pourquoi?
Parce que c'était une professeure en qui j'avais confiance. Et comme je l'ai dit, c'était un petit cercle, un petit collège, un petit cercle un petit peu familial, l'ambiance était pas mal. Et je lui faisais confiance. Et en fait, pour moi, c'était l'étape supérieure. Mes amis le savaient. L'étape supérieure, c'est la génération du dessus, la génération de ma mère. Donc, je lui faisais confiance. Elle voyait que j'étais pas bien. Elle me posait beaucoup de questions. Elle voulait savoir, elle voulait creuser pourquoi je n'étais pas bien. Et donc, un jour, j'ai décidé de lui dire. Je n'arrivais pas à le dire de vive voix. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une lettre. On était tout seul dans la salle de classe entre midi et 2. Je lui ai donné la lettre. Elle l'a lue et puis elle a très bien pris. Au final, on a parlé. Et cette réaction, ça a été le déclencheur de me dire que, bon, ça va, il n'y a pas que les ados qui réagissent bien, il y a les adultes. Ça veut dire que je ne suis pas insensé, quoi, que ça se voit. Et donc, ça m'a permis par la suite de le dire à une autre de mes professeurs. Et ensuite, ça a fait le tremplin pour le dire à ma mère, me dire, ça y est, je suis prêt, je l'ai déjà dit à des adultes.
Alors, comment vous lui avez dit à votre maman, Zach?
Ma mère, ça a été pareil, je n'ai pas réussi à le dire de vive voix. Alors, pour rien oublier, je lui ai fait un long message sur mon téléphone et je me suis dit, bon, il va falloir que je me lance. Ça faisait déjà quelques temps que je voulais lui dire, mais je n'arrivais pas. Alors, un jour, je me suis lancé, on était tous les deux dans le salon. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit « Maman, regarde ton téléphone ». Donc, on était juste face à face sur le canapé. Elle l'a lu et donc je lui ai expliqué tout. Je ne l'ai pas ménagé, on va dire ça comme ça. Je lui ai tout dit de A à Z. Et ensuite, une fois qu'elle a lu le message, elle m'a tout de suite pris dans les bras. Elle m'a réconforté, elle m'a dit que de toute façon, qu'elle m'aimait, qu'elle serait là tout le temps pour moi, qu'elle m'accompagnerait. Et tout de suite après, elle m'a dit « Bon, maintenant... qu'est-ce que tu veux faire? On commence par quoi? » Donc, tout de suite, dès le début, ma mère m'a accompagnée et j'en suis très reconnaissant.
Oui, elle a été formidable, hein, votre maman. Elle a super bien réagi, mais elle devait le sentir quand même, j'imagine.
Ben, j'imagine que oui, parce qu'après, on a parlé forcément un peu après. Et au début, elle a cru que j'allais lui annoncer que j'aimais les filles. Mmh. Parce que c'était un petit peu la continuité de la chose. Mais au final, quand elle me dit que quand elle regarde en arrière, effectivement, il y avait des signes avant-coureurs. C'est juste qu'on ne connaissait pas la question.
Oui, c'est ça. Et d'où l'intérêt de cette émission aussi, c'est de mieux comprendre.
De faire connaître.
Et faire connaître. Alors, vous avez démarré votre parcours de transition après.
C'est ça.
Par quoi on commence? Qu'est-ce que ça a été, quoi, ce parcours?
Alors moi, tout de suite, le premier commencement, c'est les choses où ça va vite, on va dire. Donc, l'achat de binder. Un binder, qu'est-ce que c'est? C'est comme... Une brassière, un gilet de compression, en fait, qui donne l'effet d'un torse plat. Donc, en l'occurrence, ben, pour moi, les garçons qui sont nés dans le corps de fille. Donc, c'est une gaine compressive, ça nous compresse la poitrine, mais on a l'impression d'avoir un torse. Et puis, vis-à-vis des autres, les personnes nous voient...
comme un garçon.
Comme un garçon. Et ensuite, première étape vraiment administrative, etc. Donc, je faisais tout en parallèle, hein, mais ce qui a été en premier, ça a été mon changement de prénom à l'état civil. donc à la mairie. Ça, ça a été un grand soulagement aussi parce que en période de rentrée des classes, sur la liste, il y a écrit le bon prénom. Donc ça, déjà, ça soulage. Ensuite, j'ai commencé une hormonothérapie, donc une prise de testostérone, pour avoir une seconde puberté, mais cette fois-ci la bonne, une puberté masculine. Ça qui a été révélateur, je me suis complètement épanouie.
Ça, vous avez eu l'impression de revivre ?
C'est ça, en fait, c'est ça. C'est même de vivre, en fait, finalement, de me découvrir et de me dire, waouh, enfin, je suis moi, quoi.
Enfin, je suis à ma place.
C'est ça. Et après, il y a eu les opérations chirurgicales. Donc, l'ablation de la poitrine, qui est un grand soulagement monumental. Parce que moi, pendant des années, pendant plus de 6 ans, je ne me suis pas baignée. Je ne suis pas allée à la piscine ni à la plage parce que j'avais...
Parce que ce n'était pas vous.
Voilà, tout simplement. Donc, après cette opération, grand soulagement, on n'a plus le gilet compressif. Donc, déjà, pour respirer à plein poumon, c'est très bien. Pour même la santé mentale, se dire que waouh, quand on se regarde dans un miroir, qu'on a des pectoraux, un torse plat, c'est...
Alors Zach, vous l'avez dit, votre maman, elle vous a accompagnée pendant toute cette transition. Mmh. Elle a super bien réagi. Elle est quand même assez extraordinaire parce que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et aujourd'hui, elle avait envie de vous dire 2-3 mots.
Hey, surprise! Bon, mais comme tu peux le constater, je ne suis pas présente physiquement. Mais tu sais très bien que je serai toujours là pour toi, moralement, pour te soutenir, te dire aussi que je suis fière de toi, de ce que tu es, un bosseur, quelqu'un de responsable, de persévérant pour réussir dans sa vie. Voilà, tout ce qui me rend fière. Et tu sais que ce qui m'importe, moi, c'est de voir que mes enfants vont très bien. Voilà, je te fais de gros bisous. Bisous, loulou, je t'aime.
J'adore le petit clin d'œil. Oh, elle est trop mignonne. Maintenant.
Ouais.
Elle est trop chou. Bon, bah voilà, on l'embrasse très fort.
Ah ouais, je te fais des bisous, maman.
Et on a évidemment un spécialiste du sujet sur ce plateau. Bonjour, docteur Serge Eiffel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes psychiatre à la tête d'une unité de soins à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes aussi l'auteur du livre Transition, réinventer le genre. C'est aux éditions Kalman-Lévy. Alors, je suis parent, je perçois que mon enfant n'est pas bien, enfin, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne mets pas des mots dessus. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis si je vois qu'il est mal dans son corps ?
Tout parent qui voit que son enfant ne va pas bien, il doit évidemment essayer de l'aider, d'être proche de lui, d'aider à la parole. C'est-à-dire que le parent, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit un petit peu précéder l'enfant dans ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'il doit percevoir les émotions de l'enfant. Ça commence avec le bébé qu'on a dans les bras. On essaye de deviner qu'est-ce qu'il a dans la tête, pourquoi il pleure, pourquoi il n'est pas content. Mais ça continue tout au long de la vie des enfants. Essayer de mettre des mots où on sent que l'enfant a du mal à les mettre, et surtout ne pas avoir peur d'aborder avec lui certains sujets qui sont un peu délicats pour les parents, effectivement la question du corps, la question du genre, mais aussi la question des relations sociales, parce qu'un enfant qui a des problèmes de genre et qui est mal dans sa peau, c'est à l'école qu'il va avoir conscience de ce qui se passe. Parce que les autres vont le regarder différemment, qu'il va être ostracisé, qu'on va commencer à se moquer de lui parce qu'il n'est pas comme les autres. Et ça, l'enfant intériorise très vite la honte et le rejet. C'est-à-dire qu'il se dit, au fond, ce n'est pas les autres qui sont des idiots de me bouc émissariser comme ça, c'est à cause de moi. Et donc, il n'ose pas en parler à ses parents non plus. Donc, c'est surtout ça à quoi les parents doivent être attentifs. Un enfant qui se renferme, un enfant qui est déprimé, qui a des cauchemars, qui va mal, essayer de trouver les mots pour le faire sortir de son silence.
Delphine nous envoie comme Zach, ma fille de 6 ans est un vrai garçon manqué. Y a-t-il des signes chez les petits d'une possible difficulté avec leur sexe de naissance ?
Alors vous savez, des petites filles qui sont garçons manqués ou des petits garçons qui aiment bien se mettre du vernis à ongles ou se déguiser en princesse, il y en a plein. Il ne faut pas non plus en faire une pathologie et en faire une maladie.
Moi, surtout je suis... que l'expression « garçon manqué » est
insupportable. Oui, déjà l'expression, effectivement, je suis d'accord.
Il y a un côté raté.
C'est une expression qu'il faut qu'on bannisse tous.
Voilà, quand on voit Zach, on se dit qu'il est passé de garçon manqué à garçon réussi, finalement.
Oui, c'est ça.
Mais
bien dit ça.
Mais il ne faut pas que les parents surtout pas commencer à mettre des diagnostics. statistiques, parler de dysphorie de genre ou je ne sais quoi, parce qu'on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Les petits garçons et les petites filles, il faut les laisser jouer. Ils ont envie de jouer. Un petit garçon, il veut jouer à la princesse, une petite fille, elle veut jouer au cosmonaute. Eh bien, c'est très bien. On peut les encourager à ça, mais avec un message qui soit toujours le même. Il y a 1000 façons d'être un garçon, il y a 1000 façons d'être une fille aujourd'hui. Il n'y a plus une seule voie. Pour les garçons et les filles, on a donc beaucoup de chance. Donc les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent.
On a reçu une autre question pour vous, mais cette fois-ci en vidéo, c'est celle de Marilyn. Regardez.
Bonjour. Pour vous, pour une personne transgenre, est-ce que le choix du prénom est une question importante ? Merci, bonne journée.
Bah oui, c'est une question fondamentale. C'est comme une renaissance, ouais. Hein, c'est-à-dire ouais. Qu'effectivement, on revient à la vie sous une autre identité. Et donc, effectivement, le choix de ce prénom, c'est très important. Moi, j'ai pu constater, en recevant beaucoup de jeunes et de moins jeunes transgenres, que le prénom, ce n'était pas par hasard. Parfois, c'est comme quand les parents nomment un enfant, oui. On va chercher le prénom aussi dans une histoire, dans une famille, dans des relations, avec quelqu'un qui vous a marqué. Mais c'est une vraie affirmation de soi, c'est une vraie renaissance, c'est-à-dire je suis devenu cette personne.
Céline vous demande, les parents doivent-ils faire le deuil du genre de leur enfant ?
J'aime pas entendre parler de deuil, oui. Parce que l'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un énorme travail pour les parents qui ont accompagné une petite fille, un petit garçon, qui ont projeté que cette petite fille, elle allait être maman, que ce garçon allait faire telle carrière, etc. Donc, il y a effectivement le deuil d'anticipation qu'on avait sur cet enfant. Mais au fond, ces anticipations...
C'est valable pour tous les parents, non, ça ?
Ça, c'est valable ouais. Absolument pour tous les parents, quand il y a un changement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cet enfant... c'est toujours leur enfant et c'est toujours le même être. C'est-à-dire que ce qui fait l'essence d'un individu, c'est pas seulement son sexe. Évidemment, le sexe, ça en fait partie, mais ça n'est qu'une partie de l'individu. Et que cette personne humaine qu'ils ont accompagnée, qu'ils ont mis au monde, c'est la même. Elle n'a pas à changer fondamentalement. C'est pas parce que son apparence a changé que cette personne a changé.
Alors, il y a des termes qui accompagnent cette question de la transidentité. Transidentité, dysphorie. Et Suzanne vous demande, ces termes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, transidentité et dysphorie ?
Alors, transidentité, c'est vraiment un parcours. C'est-à-dire, trans, on franchit quelque chose, on franchit une frontière, comme le transalpin, par exemple, où on va en Italie, et on franchit quelque chose par rapport à son identité. Donc, c'est tout ce parcours, à la fois médical, psychologique, évidemment, médical, parfois chirurgical, mais surtout social. Qui accompagne ce parcours. Ouais. Paradoxalement, j'ai envie de vous dire que le plus compliqué dans la transidentité, ce n'est pas de prendre des hormones, mais c'est socialement de commencer à s'affirmer de l'autre genre que le sien, se faire admettre par ses camarades, par sa famille, par ses grands-parents, par tout le milieu social, par son employeur, etc. Ouais. Donc ça, c'est un véritable parcours de transidentité. Quand on parle de dysphorie de genre, d'ailleurs, le terme a tendance à être remplacé aujourd'hui par incongruence de genre, parce que dysphorie a une connotation un petit peu trop pathologique, d'accord. En fait. Mais quand on parle de dysphorie, on parle de toute la souffrance qui est liée au fait d'être, justement, de se sentir dans le mauvais corps, pour une jeune fille qui se sent garçon, comme Zach, d'avoir les seins qui poussent, les règles qui apparaissent, enfin, toutes ces choses qu'on subit dans son corps. La dysphorie, c'est le mal-être, oui.
Chloé vous demande, pouvez-vous nous parler de la façon dont vous prenez en charge les adolescents transgenres ?
Alors, c'est tout un parcours, hein, effectivement, tout un parcours de soins avec une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc, il y a des psychologues, bien évidemment, des psychiatres, des endocrinologues, des pédiatres, des chirurgiens aussi qui font partie de cette équipe. Et à chaque étape du parcours, eh bien, déjà, on prend du temps. Parce que c'est pas parce qu'un enfant ou même un adolescent de 12-13 ans a comme ça l'idée qu'il serait mieux dans l'autre sexe que c'est forcément comme ça que ça va se passer. Donc il s'agit d'accompagner ce mouvement-là. Encore une fois, transition, c'est vraiment transidentité, c'est vraiment l'idée d'un parcours et pas de quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et il y a des réunions d'équipe pluridisciplinaires, c'est-à-dire que tout le monde se réunit, avec des associations d'ailleurs de personnes concernées qui font partie de ces réunions. Et pour chaque personne, eh ben, on discute entre nous, avec aussi les associations, de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va proposer. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est au fond d'accompagner la transition sociale, c'est-à-dire c'est de permettre à cet enfant de ne pas se sentir exclu, de ne pas devenir une victime dans son milieu scolaire, d'être admis que ses parents l'accompagnent, mais aussi toute sa famille, ses cousins, ses cousines, ses grands-parents, etc. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le passing, c'est-à-dire passer d'un genre à l'autre, d'une identité à l'autre, eh bien, ça soit reconnu socialement. Et là, à partir du moment où ça s'est fait, ce qui se passe sur le plan médical, c'est-à-dire donner des hormones pour viriliser une petite fille ou pour féminiser un petit garçon, ça vient très, très naturellement. Mais en tout cas, pas avant, je veux dire 16-17 ans, et jamais de chirurgie avant la majorité, bien évidemment.
Bonjour, je suis maman d'un garçon transgenre. Pourquoi est-ce si compliqué en France d'avancer sur la transition d'un mineur ? C'est pas tant que ce soit compliqué, c'est que ça prend du temps, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'il faut un processus long pour...
Ben, ça prend du temps et ça demande la collaboration de tous les acteurs. Donc, si vous avez une école... maintenant, les écoles, dans la plupart des cas, elles se sont mises au jour, disons, par rapport à ça, et elles accompagnent au mieux ces enfants, mais pas toutes. Il y a des écoles dans lesquelles il y a un refus d'accompagner ces enfants, il y a un refus de changer de prénom, il y a un refus d'accompagner toute cette transition. Il y a des parents qui sont très rejetants, qui sont très hostiles, qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Donc, évidemment, c'est des parcours compliqués et qui vont être plus ou moins compliqués
vous-même,
pour les uns ou les autres.
Vous-même, vous êtes parfois confrontés à ces parents-là qui ne veulent pas en entendre parler. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites ?
Bah, écoutez, j'essaye d'établir un dialogue. J'essaye de leur dire qu'est-ce qui compte pour eux. Est-ce que c'est que leur enfant soit mal dans sa peau, qu'il risque une tentative de suicide tellement il est mal, parce que c'est aussi ça qui se passe. On voit des ados qui se scarifient, qui font des tentatives de suicide tellement ils étouffent dans leur corps. Donc, mais il y a des parents qui continuent d'être rejetants. Il y a des jeunes qui se retrouvent à la rue, hein, qui sont recueillis par des structures spécialisées.
L'association Le Refuge, notamment.
Le Refuge, par exemple. Le Refuge qui a ouvert effectivement des unités autour de cette question de la transidentité.
Paola vous demande s'il existe des estimations du nombre d'enfants ou d'adolescents transgenres en France.
Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En plus, c'est quelque chose qui fait un peu boule de neige à l'heure actuelle. Et puis, à côté de cette question de la transidentité à proprement parler, c'est-à-dire des jeunes qui veulent faire ce parcours, il y a tous ces jeunes qui sont dans ces fluidités identitaires, dans ces fluidités de genre, qui se disent et fille et garçon, ni fille ni garçon, parfois l'un, parfois l'autre, etc. Donc ça, c'est énorme. Je dirais que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils interrogent les questions de genre, les normes de genre, qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, qu'est-ce que c'est qu'être une fille, comment est-ce que je me sens moi par rapport à ces appellations-là. Donc à côté de ceux qui sont vraiment... qui sentent qu'ils iront mieux s'ils font ce parcours et qu'ils franchissent la frontière, il y a tous ces jeunes-là, et là, ça fait beaucoup.
Adrien vous demande s'il existe des prises en charge psychologiques pour les familles des ados trans, pour mieux accompagner la transition.
Bah, écoutez, moi, c'est ce que je fais, mon nudité à la Salpêtrière, mais il y en a d'autres, il y a effectivement de plus en plus de consultations, et à partir du moment où une équipe prend en charge un enfant ou un adolescent, il va prendre en charge sa famille, bien évidemment, ça fait partie du processus.
On a une question de Sylvain qui dit « J'ai deux ados de 14 ans et 17 ans, j'envisage de changer de genre, comment leur expliquer ?»
Donc ça, c'est un papa qui change de genre.
Ah, c'est autre chose.
Non, non, ça c'est effectivement, et ça se passe et ça se présente de plus en plus. Pour des ados qui ont 14 ans, etc., c'est pas le meilleur moment pour qu'ils puissent admettre quelque chose comme ça, parce qu'eux-mêmes sont dans une interrogation et les difficultés de parcours qu'rencontrent tous les adolescents. Donc ça demande là beaucoup, 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 beaucoup de proximité, de dialogue, de tact, d'expliquer les choses, d'admettre qu'il va y avoir des rejets pendant un temps, que ça va être difficile. Évidemment, la position de la mère par rapport à ça est fondamentale. Si la mère soutient son conjoint ou pas, si elle l'accepte ou si au contraire elle le rejette. Là, les ados vont se trouver dans des conflits de loyauté qu'on connaît bien à cet âge-là.
Il faut qu'ils soient accompagnés peut-être.
Et là, un accompagnement, ça peut être effectivement nécessaire.
Comment être sûr que notre genre ne nous convient pas, vous demande Marion ? Ça, c'est une bonne question.
Ça, c'est une bonne question parce qu'au fond, si on s'interroge tous, il y a des choses qui nous gênent dans la virilité ou dans la féminité. Les mouvements féministes ont Beauvoir l'a dit avant tout le monde. On ne naît pas femme, on le devient. Donc, ça veut dire que pour devenir femme, est-ce qu'on a besoin de naître dans un corps d'homme ou de femme, par exemple ? C'est-à-dire, c'est un parcours. Et que ce parcours pour être garçon, ce parcours pour être fille, il est parfois très simple pour les unes et pour les uns, mais parfois plus compliqué. Donc on est tous amenés aujourd'hui à s'interroger sur ces questions de genre. Moi, je dis souvent qu'un couple d'aujourd'hui, un couple hétéro banal, quand ils commencent à s'engueuler pour savoir qui fait la vaisselle ou qui va chercher les enfants à l'école, ils interrogent les normes de genre. Donc les normes de genre, elles sont en permanence remises en question. Mais s'il y a vraiment une souffrance qui s'établit sur le très long terme avec la certitude que ce n'est pas ce corps-là, ce n'est pas cette identité-là, bah là, il faut commencer à être aidé par rapport à ces interrogations.
Oriane vous dit justement, mon enfant pense être transgenre, que faire pour l'aider au mieux ? Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser particulières à son enfant à ce moment-là ?
Alors, encore une fois, il faut différencier ce qui est de l'ordre de l'enfant et ce qui est de l'ordre de l'adolescent, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même situation. Comme je disais tout à l'heure, les enfants, il ne faut pas les mettre dans l'idée qu'ils sont trans ou qu'ils ont une dysphorie de genre ou des choses comme ça. Les enfants, il faut les mettre dans l'idée qu'ils se découvrent et qu'ils jouent et qu'encore une fois, ils jouent à la princesse, ils jouent aux pompiers, qu'ils jouent au foot, qu'ils jouent à la marelle, que tout ça, c'est du jeu. Et à travers ce jeu, qu'ils apprennent à se découvrir et que surtout, ils n'aient pas honte d'aimer des jeux de filles pour les uns ou des jeux de garçons pour les autres, que tout ça, ça date de l'Antiquité, qu'aujourd'hui, tous les jeux sont pour tous les garçons. Et puis, on l'accompagne avec ça. C'est-à-dire que si cet enfant est très triste, s'il est très malheureux, et s'il le répète, il le répète souvent, il faut lui dire que voilà, la vie est longue, qu'il y a d'autres parcours qui sont possibles, que ce n'est pas sûr que ça sera ça, parce que peut-être que quand il grandira, il va finalement bien sortir dans son corps. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les études sur les enfants qui montrent cette souffrance de genre avant la puberté, eh bien, il n'y en a que 10, 15, 20% au maximum qui, après la puberté, vont entamer une transition.
D'accord.
Donc, vous voyez, c'est énorme. La plupart vont peut-être être homosexuels, par exemple, mais ne vont pas entamer ce type de parcours. Par contre, quand c'est à l'adolescence que cette dysphorie de genre, entre guillemets, apparaît, là, plus souvent, effectivement, le parcours va se confirmer. Et donc là, ça demande un autre type d'accompagnement qui est effectivement de contacter des associations, des spécialistes et d'accompagner son enfant là-dedans. Mmh.
Mais alors, je ne suis pas un petit garçon qui aurait 5-6 ans ou une petite fille de 5-6 ans qui dit bah, « moi, plus tard, je veux devenir un garçon ou une fille, oui, etc. » Donc, pour les parents, c'est du jeu. Il faut vraiment leur dire, mais bien sûr. Enfin, je veux dire,
faut leur dire, bah, tu ne sais pas ce qui va t'arriver plus tard.
On n'en fait pas un ou alerte générale, discuter de...
Pour l'instant, vis comme tu as envie de vivre, épanouis-toi comme tu as envie de t'épanouir. Mais ce qui arrivera plus tard, on n'en sait rien. C'est comme un enfant qui vous dit, plus tard, je serai président astronaute de la République ou astronaute.
Bah, on répond, oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, bien sûr.
Coralie vous dit, quelles sont les choses à ne pas dire pour ne pas braquer son enfant, qui est en pleine réflexion sur son genre?
Ben, c'est tout ce qui le ferait sentir anormal, tout ce qui le ferait sentir un monstre, tout ce qui ferait qu'on dit à un petit garçon ne se comporte pas comme ça, un petit garçon ne joue pas à ces jeux-là, un petit garçon ne met pas du vernis à ongles, c'est-à-dire c'est lui faire sentir qu'il est monstrueux dans ses goûts et dans ses envies. Je crois qu'il faut lui parler de la diversité, mais il faut aussi, on ne peut pas se masquer les yeux, il faut pouvoir expliquer à un petit garçon que dans la société d'aujourd'hui, un petit garçon qui est très féminin ou un petit garçon qui a envie de porter des jupes, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué parce que les autres ne vont pas l'admettre.
Oui, ça, il faut quand même
le dire. Ah ben oui, il faut le dire, il faut le prévenir. Il faut lui dire qu'il risque de se faire massacrer,
violent,
entre guillemets.
Que les gamins entre eux
et que dans ce cas, il ne doit pas hésiter à en parler, il ne doit pas hésiter à se faire aider par rapport à ça. C'est beaucoup plus compliqué pour un garçon que pour une petite fille qui aime bien être en jean avec des baskets et jouer au foot. Celle-là, plutôt, on l'admire et on la laisse tranquille.
Merci Serge Hefest, qui est toujours un plaisir de le recevoir dans la maison des maternelles. Et merci beaucoup à Zach d'avoir accepté de raconter ce sujet intime. C'était donc, on l'imagine, pas simple. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles, le podcast produit par France Télévisions ainsi que par 2P2L. À demain tout le monde, ciao.